Bonsoir à tous, merci de votre fidélité à VOA Africom. Tous les lundis soirs, c'est Sporama en direct de Washington. Pendant une demi-heure, on va refaire l'actualité sportive. Elle est chargée, bien évidemment. Et comme chaque semaine, vous pouvez nous laisser réagir sur Facebook et réagir également en appelant le 001 202 205 26 33. 001 202 205 26 33. Josèle Morissin pour prendre vos appels en direct. On va saluer nos deux premiers intervenants, Jules Valentin Gouet qui est à Libreville. Bonsoir Jules.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous.
On va saluer également Amdine C qui est avec nous depuis Dakar. Bonsoir Amédine.
Bonsoir Nicolas Pino et bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
Voilà, et la bande de VOA Afrique qui va s'agrandir dans quelques instants. On va bien évidemment parler de la Coupe CAF 2018, Coupe de la Confédération CAF 2018. Et on me signale qu'Amine Birouk nous a rejoint en direct de Casablanca. Amine, bonsoir.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous.
Allez, je le disais, la Coupe CAF, la phase de poule, le tirage au sort a eu lieu samedi en direct du Caire, au siège de la Confédération africaine de football. Et on en sait un peu plus, bien évidemment, sur ces 16 équipes et la répartition dans les chapeaux. Et c'est intéressant, puisque le groupe A est composé de la SEC Mimosa, du Raja Club Athlétique du Maroc, c'est bien évidemment le Raja Casablanca, l'AS Vita Club, le club de Kinshasa, et l'Adouana du Ghana. Dans le groupe B, Berkane du Maroc, Al Masry d'Égypte, UD Songo du Mozambique et Al Hilal du Soudan. Dans le groupe C, Enimba du Nigeria, le WAG de Williamsville, le club de Côte d'Ivoire, le Kara du Congo et le Djoliba de Bamako. Enfin, dans le groupe D, le Rayon Sport du Rwanda, l'USM à Alger, le Young Africans de Tanzanie et encore Gor Mahia du Kenya. Allez, on va se tourner bien évidemment vers Amdinsi, on n'a pas d'équipe sénégalaise sur ces 16 dernières équipes, puisqu'on sait que Berkane a évidemment éliminé la génération foot lors du tour précédent. Que vous inspire ce tirage au sort, Amdinsi?
Bon, on dirait que le tirage a été clairement pour les uns et pas clairement pour les autres, pour des équipes comme le Vita Club, le Vita Club qui a été du groupe de la mort, puisque quand on partage la même poule avec la SEC d'Abidjan et le Raja Casablanca, c'est deux clubs favoris. Donc, c'est vrai qu'il y a le petit Amina Star, mais je pense que cette poule est la poule de la mort, puisque la SEC Mimosa, c'est vrai, ce n'est plus la SEC d'Abidjan des années 70-80, mais la SEC d'Abidjan reste la SEC d'Abidjan. Et il y a le Raja de Casablanca, je l'ai dit tantôt, le Raja Casablanca fait partie quand même des meilleures équipes en Afrique, parce que tout simplement, le Raja vient du Maroc et en ce moment, surtout cette année 2018-2017, le football marocain est en train quand même de surfer sur le football africain, avec notamment la sélection de l'Union de l'Atlas, mais également l'équipe locale qui a remporté le Chan, et également le village de Casablanca qui a remporté la Ligue africaine des champions. Quand on partage quand même la poule avec une équipe marocaine, et ça prouve que cette poule est très difficile. Donc le Vita est tombé sur une poule très, très, très difficile, Nicolas Pinon.
Allez, on va donner la parole évidemment à Amine Birouk sur ces équipes marocaines qui sont présentes, notamment Berkane et le Raja Casablanca. Que vous inspire ce tirage au sort, Amine?
Tout d'abord, le groupe du Raja Casablanca est un groupe en configuration de Champions League, puisqu'on se retrouve deux équipes qui sont habituées à ce type de compétition. On parle de la SEC d'Abidjan et de la SEC Vita Club qui a été reversée de la C1. Donc ce sera une mission très compliquée pour le Raja Casablanca qui démarre par une rencontre à domicile contre la SEC Vita Club qui ne sera pas de tout repos. Ensuite, par rapport à la Renaissance Sportive Balkane, c'est un groupe plus abordable, puisque même s'il y a une équipe habituée aux joutes africaines comme elle est l'aide du Soudan. Les autres formations sont à la portée de ce club qui a effectué des progrès, qui termine régulièrement dans le top 5 du championnat marocain et qui va démarrer avec l'aide du Soudan comme adversaire. Mais après, il y aura un déplacement au Mozambique, qui sont dans les cordes de l'équipe de Berkane, et puis un affrontement contre les Égyptiens d'El Masri, qui n'ont pas peut-être au moins l'expérience africaine de la Ligue du Zamalek ou d'Arab Contractor, mais qui demeure un club redoutable, sérieux, rigoureux, qui est capable de poser des problèmes. Mais a priori, Berkane a une chance à toutes ses chances pour passer au tour suivant. Pour le Raja, ce sera plus compliqué puisqu'il faudra négocier, faire le plein à domicile et prendre quelques points en déplacement.
Merci beaucoup. Amine Biro, qu'on se tourne du côté de Jules Valentin Goué à Libreville. Jules Valentin, on a aussi la participation d'équipes intéressantes, comme le Rayon Sport du Rwanda, hein, qui arrive à ce niveau de compétition. C'est pas mal, hein, notamment pour cette équipe rwandaise. Hein.
Bien sûr, surtout que l'équipe nationale, essentiellement constituée de joueurs locaux, a fait une bonne impression lors du dernier CHAN. Et donc, on se dit que les équipes qui n'ont pas, les équipes nationales qui n'ont pas beaucoup de professionnels, ont forcément des clubs locaux qui sont intéressants. Alors, je pense ici à Rayon Sport, mais il y a aussi, il faudra citer également du champion du Mozambique, par exemple, disons que du représentant du Mozambique, par exemple, ou de la Tanzanie. Ce sont des pays qui, généralement, ont des équipes et des joueurs qui surprennent souvent lors des joutes africaines au plus haut niveau.
Merci beaucoup. On va évidemment suivre cette phase de poule. On va marquer une première pause sur VA Afrique, sur Sporama. On se retrouve dans quelques instants. Allez, on va parler à présent des éliminatoires de la CAN des moins de 20 ans. La République démocratique du Congo qui a été éliminée par la Tanzanie au tir au but à Kinshasa à l'occasion du premier tour retour de ces éliminatoires. Dans les autres rencontres, le Togo a battu le Gabon. Le Togo évidemment mais cette victoire elle est insuffisante puisqu'il y avait eu une claque au match aller, une défaite 4-0. On va retrouver Élisée Moupatine qui est avec nous depuis le Bénin. Bonsoir Élisée.
Bonsoir Nicolas et bonsoir à tous les auditeurs de la VOA.
On le disait, victoire togolaise, mais victoire insuffisante après la lourde défaite à l'aller face au Gabon.
Oui, c'était une mission presque impossible, Nicolas, puisque déjà à l'aller, les jeunes togolais se sont éteignés sur la marque de 4-0. Donc le plus difficile c'était de marquer tout au moins les 4 buts pour refaire leur état et aller chercher une éventuelle séance de Dieu, mais les Togolais ont enquêté un diable de motif, mais pour la suite, ils ont trouvé un point s'imposer sur la match de 2-1. Ce n'était pas suffisant, puisque les Gabonais étaient plus forts qu'eux. C'était un match intéressant. Les Gabonais passent au tour suivant, un match très intéressant. Les Togolais ont essayé tout, mais les Gabonais étaient plus adroits qu'eux. Ils ont marqué le but à l'extérieur, ce qui a anéanti au moins tout au moins la chance des Togolais de marquer, pourquoi pas, deux buts et encore de plus pour aller chercher 4 buts et espérer une prolongation. Mais les Gabonais étaient présents, ils ont obtenu les qualifications. Et tout ça, c'est la sélection gabonaise qui m'a, ma foi, surpris puisque j'ai suivi ce match-là. C'était une très belle sélection gabonaise qui a tout au moins maîtrisé les Togolais du côté du stade Omnisports de Lomé.
Merci beaucoup Élisée Oumpatine. On va donner d'autres résultats évidemment, notamment Swaziland-Malawi avec ce match nul un but partout, tout comme la Namibie face au Botswana. Et puis battu 2-0 à l'aller, les Marocains se sont imposés 1-0 à domicile contre la Mauritanie. Évidemment, ce résultat insuffisant. C'est la Mauritanie qui s'est qualifiée, Amine Birouk. Amine, est-ce que vous nous entendez ?
Oui, je vous écoute. Je disais que les Mauritaniens ont été exemplaires en termes d'état d'esprit. Tout au long de la rencontre retour, ils se sont battus bec et ongles pour préserver leur avantage. Les Marocains ont été plus timorés en première mi-temps, plus entreprenants en seconde. Ils ont obtenu un pénalty qu'ils ont réussi à convertir, mais c'était un peu trop tard puisqu'ils n'avaient pas pris le match par le bon bout. C'est la 7e fois d'affilée que le Maroc ne se qualifie pas pour la Coupe d'Afrique U20. Ça en dit long sur le vaste travail qui attend le football marocain au niveau des catégories inférieures, puisque pour le moment, les résultats des sélections A, de la sélection locale et des clubs sont un peu l'arbre qui cache la forêt. Il va falloir continuer à travailler en profondeur pour avoir de bons juniors, de bons cadets qui puissent être compétitifs sur le plan africain de façon à pouvoir miser sur la continuité. Sinon, on aura des résultats à court terme, c'est le cas maintenant, mais quid du long terme.
Et évidemment, le voisin évidemment tunisien, l'Algérie, qui a confirmé en battant la Tunisie chez Al Arabes 2-1 pour une qualification. Également la victoire de la Guinée-Bissau face à la Sierra Leone. Et puis le Rwanda, auteur évidemment d'un match nul 0-0. Le Burundi qui s'impose 1-0, mais c'est insuffisant bien évidemment après la victoire à l'aller de l'équipe éthiopienne, si je ne m'abuse. On va marquer une autre pause sur VO Afrique. On se retrouve dans un instant. Voilà, vous êtes toujours à l'écoute de VOA Afrique. On va parler à présent de cette information qu'on avait suivie la semaine dernière, la garde à vue de Constant Omari, le président de la FECOFA, vice-président de la Confédération africaine de football et membre du comité exécutif de la FIFA. On se souvient qu'il était ressorti libre de cette garde à vue. Eh bien, dans une première réaction exclusive pour VOA Afrique, Constant Omari, qui nous a contacté ce matin pour nous envoyer un communiqué. Selon lui, la vérité est têtue, il dément toutes les accusations contre lui. Il estime notamment que la Fédération congolaise de football n'a jamais touché le fameux million de dollars qui avait été décaissé pour les matchs face à la Tanzanie et au Nigeria. Et il accuse notamment le ministre des Sports, Papi Nyong'o, le ministre congolais des Sports, pour lui demander où est passé ce million de dollars annoncé. Alors, on va revenir avec vous, Élisée Oumpatine. C'est vrai que cette annonce, cette garde à vue avait fait grand bruit la semaine dernière, en tout cas. Constant Omari est libre de voyager, il est d'ailleurs à l'étranger, c'est de là qu'il nous a envoyé ce communiqué. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette affaire dans le foot congolais?
Oui, suite à cette information, on était tous surpris, hein, puisqu'il a été arrêté, hein, en quelque sorte, hein, et on lui a posé des questions surtout par rapport à ce document, mais il faudrait aussi comprendre que Papi Nyong'o, le ministre qui avait en charge le poids en ce moment aussi était impliqué, puisque des dernières informations, on a appris que le ministre a confirmé quelques vérités en sorte pour pouvoir dissuader le président public que c'est une affaire qui sera réglée bientôt. Maintenant, vous savez qu'à un moment donné, la FIFA aussi a lancé un communiqué soi-disant que bon, il était, en tout cas, il était au cœur de cette information, il veut comprendre. Ce qui se passe plutôt, ce qui se passe du côté de Kinshasa, et qu'elle suit avec beaucoup d'attention ce qui se passe du côté de Kinshasa. Vous savez, c'est des problèmes qui minent le football africain, puisque actuellement au Bénin, ce problème avait causé pas mal de problèmes, puisque déjà, Angela Moussada avait détourné, selon le dire, l'agent de M-Clone, le réseau téléphonique. Mais jusqu'à présent, on n'a pas pu montrer réellement les preuves qui attestent que, notamment, l'actuel président de la Fédération mondiale de football avait décidé de faire, puisque vous savez que, en matière de football africain, l'État.
Alors, justement, Élisée, restez avec nous, puisqu'on a en ligne le grand spécialiste Thierry Kambundi de notre station partenaire Top Congo FM. Restez avec nous. Thierry, bonsoir.
Bonsoir Nicolas, bienvenue à Kinshasa.
Alors Thierry, je le disais, Constant Omari qui contre-attaque et qui demande finalement au ministre Papi Nyong'o où est passé ce million de dollars. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette contre-attaque de Constant Omari?
Ben, clairement, les relations entre les deux personnalités ne sont pas au beau fixe. Constant Omari qui en veut au ministre des Sports d'avoir divulgué ce montant comme si cet argent était déjà perçu par la fédération. Il faut replacer les choses dans leur contexte. Cette affaire est sortie, a commencé autour du match amical Tanzanie, République démocratique du Congo du 27 mars dernier. Le ministre des Sports, Papi Nyango, a reproché à la Fédération congolaise de football association d'avoir fait des prévisions pour deux matchs amicaux, celui contre la Tanzanie du 27, puis celui contre le Nigeria, prévu le 5 mai prochain à Lagos. Il a demandé que les pattes ou revoient à la baisse ses prévisions et a confié à un média local ici qu'il ne pouvait pas avec des montants aussi exorbitants. Le conseil spécial du chef de l'État en matière de lutte contre la corruption, ayant suivi cette intervention du ministre des Sports dans les médias, s'est saisi de l'affaire et a envoyé des convocations au président Constant Omari, au secrétaire général au sport, puis à plusieurs autres intervenants et du ministère de la Fédération congolaise de football association. Après les avoir entendus, il a transféré le dossier au parquet, raison pour laquelle Constant Omari, deux de ses vice-présidents, notamment celui en charge des finances, ainsi que le secrétaire général au sport, qui est le bras droit du ministre des Sports, ainsi que l'un des conseillers du ministre, le conseiller financier, ont été entendus par le parquet. Constant Omari en garde à vue pendant un jour, les autres qui sont sortis sous certaines conditions deux jours après, et voilà, l'affaire est allée dans ce sens-là. Mais en réalité, cet argent n'est jamais sorti des caisses de l'État, puisqu'il s'agissait justement d'une alerte du ministre des Sports pour dire que ces montants, ces prévisions de la fédération autour de ces deux matchs amicaux étaient exorbitants. Depuis, l'affaire est allée dans tous les sens et Constant Omari, qui s'est senti souillé dans cette affaire, exige réparation justement, car après les avoir entendus, il s'est avéré que le dossier était creux, que le conseil spécial du chef de l'État en matière de lutte contre la corruption et son cabinet n'avaient pas suffisamment étayé le dossier des preuves pouvant justement accabler Constant Omari et tout ce qui était arrêté.
Oui, ce soir, une autre réaction exclusive, celle du président Ahmad de la CAF, qui m'a confié il y a quelques minutes qu'il apportait tout son soutien à Constant Omari, qu'il n'avait jamais douté de son vice-président. Là encore, c'est les informations que vous retrouvez sur notre site voaafrique.com. Nouvelle pause, page de pub, comme on dit, sur Sporama. Allez, on parle à présent du pharaon d'Égypte, le grand Mohamed Salah, élu meilleur joueur de l'année en Angleterre. Et c'est très justifié. On espère que Mo Salah va encore faire de grandes choses en Ligue des Champions cette semaine et à la Coupe du Monde. Irrésistible, Mohamed Salah, meilleur buteur évidemment. 31 buts en première ligue, on ne l'arrête plus. On n'arrête plus Mohamed Salah. C'est amplement justifié, Amdine Sy, l'Égyptien qui vraiment nous fait vibrer cette saison. Encore une magnifique saison et un très bel exemple pour le football africain.
Tout à fait, Nicolas Pinon. Ce trophée récompense et la saison époustouflante du pharaon d'Égypte. Comme vous l'avez dit, il a déjà écrit 31 buts. Il vient d'être récompensé. Ce que aucun Africain, hormis l'Algérien Riyad Mahrez, avait réussi. Donc, le pharaon d'Égypte est en train de voir comment faire pour battre le record établi par Ian Rush, qui avait marqué 47 buts en 83 durant la saison 83-84. Pour cette saison, il passe devant Kevin De Bruyne, le Belge de Manchester City, et Harry Kane, l'attaquant anglais de Tottenham. Donc, il faut dire que Mohamed Salah est en train de marcher sur l'eau. Maintenant, la question même se pose, est-ce que Mohamed Salah ne peut pas gagner le ballon d'or européen, le ballon d'or mondial, le ballon d'or européen qui est devenu le ballon d'or mondial, puisque maintenant on le compare à Lionel Messi, mais également à un certain Cristiano Ronaldo. Maintenant, ce qu'on lui souhaite, c'est de continuer sur ses lancers pour terminer cette saison en beauté et pourquoi pas remporter la Ligue européenne des champions et faire une bonne Coupe du Monde. Et s'il le fait, le pharaon pourra succéder à certain Georges Weah, devenu président de la République, Nicolas Pinon.
Alors, Amdine Sy, on va évidemment espérer votre enthousiasme est communicatif, mais Jules Valentin, là encore, pour répondre à Amdine Sy, si Ronaldo gagne la Ligue des champions et que le Portugal est très bien classé à la Coupe du Monde, malheureusement, c'est aussi ça, ces affaires de classement et de ballon d'or et de meilleur joueur FIFA. Mohamed Salah aura beau avoir fait une excellente saison, une magnifique saison, il risque d'arriver court au trophée ballon d'or et meilleur joueur FIFA.
Bien sûr, parce qu'il y a des compétitions qui sont, disons qu'il y a une hiérarchie de compétitions pour désigner le ballon d'or. Et automatiquement, dans cette hiérarchie, la Ligue des champions et européenne et ainsi que la Coupe du Monde passent au premier plan. Donc Mohamed Salah a peut-être une chance de faire un excellent parcours, en finir bien son parcours en Ligue des champions. Mais au niveau de l'équipe nationale, je crois qu'il éprouvera certaines difficultés à aller très loin. Mais ce qui est surtout rassurant, c'est que depuis l'époque des Drogba et des Eto'o, qui tutoyaient les plus grands, c'est peut-être pour la première fois qu'un joueur de la nouvelle génération arrive à ce niveau.